Je suis Kim du blog My Sweet Discoveries et je suis photographe culinaire et coach en marketing. Ma mission est de vous fournir de l'inspiration et des astuces photo au quotidien afin de vous aider à évoluer dans le monde de la photo culinaire. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews d'experts dans le domaine de la photo, de la gastronomie, du business et du marketing. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à d'autres personnes, je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance. Avant de commencer cet épisode, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Un épisode de My Sweet Podcast sort chaque lundi et ce jusqu'à fin mars. Donc je t'encourage vraiment à laisser ton avis, à partager en story, à mettre une note, à partager à d'autres photographes de ton réseau et vraiment à réserver un accueil chaleureux à ce podcast. Voilà, n'hésite pas à lui donner plein d'énergie, plein de force. Si je vois vraiment que l'énergie est là et est au rendez-vous, ça me motivera aussi à continuer avec cette cadence de un épisode de podcast tous les lundis. De plus, je t'encourage aussi à t'abonner à mon compte Instagram Food Photo Academy, donc food avec F-O-O-D, photo et académie avec I-E, tout collé. À la fin, pour plus de tips photo et business, donc je me réjouis de te retrouver sur mes différentes plateformes et sur ce, je te souhaite une très belle écoute. Hello Mélodie, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là.
Coucou Kim, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Bah écoute, avec grand plaisir, ça faisait longtemps que j'avais envie de t'inviter, donc voilà qui est chose faite. Donc c'est un plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photos culinaires, de photos de mariage aussi. Donc tu vas partager avec nous ces deux facettes de ton business et tu vas aussi partager tes meilleurs conseils business avec nos auditeurs et nos auditrices. Donc je me réjouis et en plus sachez que en plus de cet épisode de podcast, on vous a réservé une petite surprise avec Mélodie. Donc vous aurez accès sur mon site www.mysweetdiscoveries.com. à une vidéo bonus spéciale dans laquelle Mélodie vous expliquera comment gérer plusieurs business en parallèle. Vu que vous allez le découvrir dans cet épisode, Mélodie gère plein de choses. Donc je pense que ce sera hyper intéressant d'avoir cette vidéo bonus. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction. Donc maintenant Mélodie, bienvenue à nouveau. Et est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît aux personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas encore ?
Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Mélodie, j'ai 36 ans, je suis photographe à mon compte depuis 4 ans maintenant. Et j'ai plusieurs domaines d'activité. Je suis photographe de mariage, je suis aussi photographe et styliste culinaire. Et je travaille aussi à l'occasion avec des marques, je fais du branding pour des marques et je fais de l'identité visuelle toujours en photo.
Wow, magnifique en effet, tout un programme, comme je disais, tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc. Donc du coup, tu nous disais que ça fait depuis 4 ans que tu es photographe. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui t'a mené à la photographie culinaire, ce que tu faisais avant, comment ça s'est passé un petit peu finalement cette mise à ton compte en tant qu'entrepreneur?
Ouais, alors j'ai toujours fait de la photo depuis mes études, parce que j'ai fait des études d'art pour être graphic designer à la base. Donc je voulais faire de l'identité visuelle, mais plutôt côté, tu sais, graphisme, faire des logos, créer des identités, etc. Donc j'ai fait des études en ce sens. Il se trouve que au final, quand je suis arrivée sur le marché du travail, le métier appliqué ne me plaisait pas autant que mes études, parce que vraiment les études c'était hyper cool, enfin c'était que des projets que t'aimes, c'est que des choses qui te plaisent auxquelles toi tu réfléchis, etc. Et il s'avère que quand t'arrives chez le client, et ben en fait tu fais des choses qui sont quand même moins épanouissantes. Donc ça m'a très vite lassée, donc je suis vite sortie de ce truc-là. Mais par contre, j'ai continué à faire de la photo. Ça, je n'ai jamais arrêté. Donc là, bah, aujourd'hui, j'ai 36 ans, donc ça fait quasiment 20 ans que je fais de la photo. Au début, c'était très pour mon plaisir personnel, pour me créer des souvenirs, etc. Et puis petit à petit, c'est devenu un truc que je pratiquais beaucoup plus. Et je pense que le switch, ça a vraiment été quand j'ai eu 25 ans, je suis partie vivre en Australie. Et comme beaucoup de gens qui partent à l'autre bout de la planète vivre pendant un an, j'ai ouvert un blog pour donner des nouvelles à mes proches. Et du coup, ce blog, je l'alimentais avec des photos et des récits de mes journées, de mes trucs et tout. Et c'est là que j'ai vraiment énormément développé la photo, puisque du coup, j'en faisais tous les jours. Voilà, ça a commencé comme ça. Et ensuite, je suis rentrée en France, j'ai continué. Après, j'ai fait pas mal de métiers différents. J'ai erré dans plein de domaines et de milieux différents. Et notamment, je suis rentrée en restauration. Donc, j'ai commencé à bosser à la Guinguette d'Angèle, qui est qui était un traiteur événementiel à la base, et ensuite on a ouvert des restaurants. Et là-bas, je m'occupais un peu des réseaux sociaux à un moment donné. C'est un peu comme ça que je suis tombée dans la photo culinaire, puisque du coup, je faisais des photos à la Guinguette un peu tous les jours. Et après, quand tu bosses dans le milieu de la restauration, bah, tu es aussi beaucoup en contact avec d'autres restos, blablabla. Et j'ai commencé à travailler assez rapidement, finalement, quand je me suis lancée à mon compte, pour d'autres restaurants, puisque c'était un réseau que j'avais déjà, qui était préexistant au fait que je me lance. Et voilà, j'ai vraiment démarré comme ça, la photo culinaire pour des restaurants, et ensuite les mariages en parallèle.
Donc, au début, si je comprends bien, tu as commencé un petit peu en tant que community manager, où tu t'occupais exclusivement des photos, ou tu t'occupais aussi vraiment de poster, de rédiger les textes, etc.
Ouais, j'ai fait aussi du community management pour certains restaurants, mais ça m'a vite lassée, honnêtement, parce que c'est un métier déjà. Et c'est pas, enfin, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la photo. Donc, en fait, j'ai intégré du CM à mes packs d'offres pour les restaurants parce que je sentais bien que c'était la demande majeure. Mais ça m'intéressait pas vraiment. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis vite détaché de ça aussi parce que le CM c'est très énergivore, c'est tout le temps, enfin tu vois, tu es tout le temps sur ton téléphone, c'est toute la journée, c'est du matin au soir, voire la nuit il faut répondre aux messages, et puis je me suis vite agacée des questions récurrentes, tu vois, des messages que tu reçois de gens qui te disent quels sont les horaires d'ouverture alors que c'est écrit sur l'introduction du resto finalement. Donc ça m'a vite, tu vois, j'ai vite perdu patience. J'ai vite senti que c'était pas un truc pour moi et que tu vois, j'avais vite envie de répondre aux gens, bon bah soyez un petit peu autonome finalement. Et du coup voilà, j'ai arrêté ça et je me suis concentrée vraiment que sur la photo. Ce qui marche moins bien, hein, on va pas se mentir, les restos ils sont quand même vraiment plus intéressés par le CM et la photo que par les prestations photo uniquement. Mais bon, moi ça m'allait pas tellement de faire du CM, donc j'ai préféré arrêter quand même.
Et justement, tout à l'heure, tu nous parlais de ton expérience, enfin, ta formation quoi, de graphic designer. Est-ce que ça, justement, c'est quelque chose que tu intègres aussi dans les packs que tu proposes au restaurant, de leur créer une identité visuelle?
Non, pas du tout. Ça, je considère vraiment que
D'accord.
c'est plus du tout mon travail
Ok.
aujourd'hui.
Ok,
Par contre, ce
ok.
qui est sûr, c'est que ça me sert, moi, à titre personnel, tu vois, pour mon site internet, par exemple, c'est moi qui le fais, pour mes créations de support, enfin, tout
Ok.
ça, c'est quand même très pratique. Ça m'a développé un œil et des compétences qui sont très utiles pour moi aujourd'hui. Mais non, je ne le fais pas pour d'autres. Je le fais vraiment que pour moi.
Ok, je me demandais. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que je propose aussi des prestats de community manager. C'est vrai que c'est très. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que les gens veulent à l'heure actuelle. Par contre, je suis d'accord avec toi, c'est assez énergivore. Donc, voilà, ça demande aussi une organisation et aussi de prendre un petit peu de distance pour pas non plus être jour et nuit sur les réseaux sociaux des clients, sachant qu'on a aussi nos propres réseaux sociaux à gérer. Donc, c'est vrai qu'après, ça fait beaucoup. Donc, justement, toi, tu nous disais que tu as commencé comme ça, finalement, en ayant ces premiers mandats de CM, que ça s'est fait un petit peu, si je comprends bien, avec les relations que tu avais grâce à la guinguette. Et ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que ton business a évolué? Est-ce que tu as eu des phases aussi où tu as prospecté? Enfin, comment est-ce que tu en as fait pour arriver au point d'aujourd'hui, quoi?
Alors, j'ai jamais trop prospecté, c'est vraiment quelque chose, bah, en toute honnêteté, parce que je ne sais pas comment faire. Donc c'est pas non, c'est pas quelque chose que je fais, la prospection. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui avec le recul, donc 4 ans, enfin même je suis dans ma 5e année en réalité, c'est quelque chose que j'aimerais développer parce que je pense que malgré tout c'est important pour aller chercher tes clients un peu rêvés. Mais voilà, je pense que ça s'apprend. Enfin, évidemment, il y a des choses qui sont un peu basiques qu'on sait tous faire, comme envoyer des mails. Mais je pense qu'il y a une démarche, un ton, des choses à savoir un peu en plus qui font la clé du succès. Et j'aimerais bien m'y mettre. C'est un de mes objectifs là pour cette année. Et après, comment j'ai développé mon business? Eh ben, c'est un peu bateau, mais en persévérant. C'est vrai qu'on dit beaucoup ça, mais c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire qu'au début, la première année, c'était assez compliqué. En fait, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'au début, enfin, moi, en tout cas, hein, dans ma perception, moi, j'avais beaucoup de mal à croire en moi et à croire que j'allais y arriver. Donc, je vivais vraiment sur cette idée que, bon, si les autres peuvent y arriver, je peux y arriver aussi. Mais c'est vrai que ce n'était pas un truc dont j'étais convaincue à 100% parce que je n'avais pas la preuve, en fait, que je pouvais y arriver. Donc, la première année, c'était assez compliqué voilà, de me gérer, d'y croire, d'avoir confiance. Et du coup, ça vient impacter plein de choses. Ça vient impacter, tu vois, la négociation des tarifs, la façon dont toi tu te valorises auprès des clients, la façon dont tu mets ton travail en avant, ça impacte aussi ta posture, tu vois, face aux clients. Ça impacte l'énergie que tu mets dans tes démarches vis-à-vis de toute ton administration, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc, ça m'a pris un peu de temps pour vraiment me dire, bon, bah, en fait, j'ai la preuve que c'est OK et que je gère. Donc, la première année, ça a été compliqué. La deuxième année, ça a été le Covid. Donc du coup,
Très
bon, bah voilà,
super.
pas de chance, mais ça m'a au moins, enfin ça a eu cet avantage que je me suis beaucoup ennuyée, et du coup, bah, j'ai eu plein d'idées. Donc du coup, j'ai développé des choses que j'aurais pas développées sans le Covid, je pense, et pour moi, ça a été plutôt bénéfique, en réalité. Donc voilà, il y a eu ça. Sortie du Covid, du coup, bah, j'ai lancé des projets qui ont été très porteurs, qui ont commencé à me faire un nom, une réputation, aussi bien dans le mariage que dans le culinaire. Et puis après, bah, ça a été un peu un effet boule de neige. J'ai continué ces projets-là. J'en ai eu d'autres par ailleurs. On m'a appelé pour d'autres choses. Et puis c'est venu, ça a grandi. Et voilà, et aujourd'hui, j'en suis là où je suis, tout en ayant conscience que ça reste, bah, tu vois, là, on en parlait tout à l'heure, là, j'ai eu une période de vie un peu compliquée parce que je divorce et que je dois déménager et blablabla. Et tout ça me prend de l'énergie que je ne peux pas mettre dans mon travail. Et du coup, je vois bien l'impact. C'est-à-dire que c'est sûr que, en fait, quand tu as un business qui ne dépend que de toi, en fait, ta seule ressource de travail, c'est ton énergie propre. Donc là, je vois bien que depuis 6 mois, je suis moins dedans et du coup, bah, j'ai aussi moins de demandes, ça travaille moins. Donc j'ai bien conscience que c'est jamais de l'acquis, tu vois. Mais malgré tout, bah voilà, malgré tout, ça tourne. Là, je sais que je vais m'y remettre et puis ça va aller, tu vois. Mais c'est vrai au début, j'avais pas cette confiance et c'est normal, je pense. Et voilà.
Merci Mélodie. Je te remercie déjà d'une part pour ta transparence et voilà cette humilité, ce partage aussi de ces périodes qui sont pas forcément faciles. Donc je compatis, enfin je comprends tout à fait vu que j'ai aussi vécu une période un petit peu compliquée l'année passée. Donc voilà, je sais que c'est pas forcément évident. En tout cas, j'ai noté des tonnes de questions. Vous n'avez pas pu le voir, mais moi j'étais en train d'écrire plein de questions parce que je trouvais que c'était super intéressant. Donc j'aimerais bien rebondir sur plusieurs points. Déjà le premier, bah, tu parlais de la confiance en soi. Et ça, je sais que voilà, c'est quelque chose qui touche énormément de photographes, syndrome de l'imposteur, etc. Bah, évidemment, ça me ou m'a aussi touchée. Donc, comment faire selon toi pour avoir davantage confiance en soi, en son travail? Est-ce que tu as des conseils à partager aux personnes qui nous écoutent?
Alors ouais, je pense qu'il y a deux choses qui sont majeures. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut vraiment beaucoup pratiquer. Donc ça, je parle pour la photo. En fait, il faut faire de la photo tout le temps. C'est-à-dire que plus tu vas en faire et plus tu vas te sentir légitime, tu vois, dans ce que tu fais, dans ton métier, dans ton positionnement. Parce que plus tu produis et plus tu vas te rendre compte que tu peux produire et plus tu vas t'améliorer. Et donc ça, en photo, tu peux pas te tromper. Enfin, tu vois, il suffit de regarder tes photos d'il y a 3 mois versus celles d'aujourd'hui. Bon, bah, tu vois bien qu'en 3 mois, tu as gapé si tu as fait des photos tous les jours. Donc ça, c'est important. Et ensuite, il y a un autre élément qui pour moi est majeur, c'est qu'il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut vraiment se créer un entourage professionnel de gens qui vont te tirer vers le haut, qui vont te soutenir, qui vont te rappeler ta valeur, qui vont te dire que si tu peux y arriver, que tu es capable. Tu vois, parce que les jours, parce que gérer un business, c'est quand même quelque chose qui est lourd et qui peut être stressant parce que tu sais jamais trop comment ça va se passer. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu qui peuvent t'inquiéter. C'est bien d'avoir des gens autour de toi qui te rappellent les jours où ça va pas, qu'en fait tu es capable et que tu peux y arriver et qu'à partir du moment où tu le décides, c'est faisable. Tu vois, et ça, c'est très précieux. Et c'est un peu aussi ce qui m'a manqué la première année. Je pense que la première année, j'étais pas très bien entourée. J'avais plutôt que. Enfin, j'étais pas très bien entourée. Je n'étais pas très entourée de gens qui étaient dans une situation similaire à la mienne. Et c'est vrai que du coup, quand tout ton entourage, c'est que des gens qui sont en CDI et qui te soutiennent à leur façon, mais qui ne comprennent pas très bien finalement ta vie, bah, tu es un peu seule, tu vois, face à tes questionnements, toutes les choses qui t'inquiètent, etc. Donc c'est vraiment important, tu vois, je pense, d'aller, je sais pas, faire des apéros, networker, écrire à des gens sur Instagram pour leur proposer des cafés. Faire en sorte de rencontrer des gens et de t'entourer de manière positive et chouette.
Merci, je valide les deux points, les deux conseils. Tu sais que c'est impressionnant parce qu'il y a justement, enfin, par rapport au premier point de l'amélioration, de pratiquer, pratiquer, j'avais justement lu un livre dans lequel justement il parlait d'une étude qui avait été faite dans une université. Ils avaient donné une consigne, en fait, c'était de faire la meilleure photo. Et à un groupe, il leur avait dit, OK, vous devez prendre. Enfin, non, c'est pas vrai. En fait, il y avait un groupe auquel ils avaient dit, vous devez prendre le maximum de photos en 3 mois. Et un autre groupe, ils avaient dit, OK, vous devez pas prendre beaucoup de photos, mais vous devez vraiment prendre très peu de photos, mais des photos incroyables. Et en fait, finalement, les meilleures photos étaient dans le premier groupe, le groupe qui avait dû produire massivement en quantité, parce que je pense qu'en effet, d'une part, ils s'étaient améliorés, et d'autre part, ils s'étaient peut-être moins stressés à se dire, ma photo doit être incroyable. Donc, clairement, je te remercie en tout cas pour ces deux conseils. Et le deuxième, je suis d'accord avec toi, l'entourage, c'est vraiment la clé, quoi. Donc, tout à fait d'accord. Et justement, tu nous expliquais qu'il y avait eu des moments où tu étais vraiment dans le doute, pas forcément bien, aussi avec la crise Covid, etc. C'était un petit peu challenging pour le business. Quel conseil tu donnerais aux personnes justement qui se sentent vraiment pas bien, qui se sentent un petit peu dans le creux de la vague? Comment faire pour remonter et redonner une petite impulsion au business?
Ben, je pense qu'il faut accepter que ça marche par vague et que c'est comme ça. Et moi, je sais que quand dans le boulot, j'y arrive plus, que mon cerveau sature, etc., j'essaye de plus y penser. Je fais autre chose, je vais faire du sport, je vois mes amis, je change complètement d'activité, quitte à prendre 2 jours, tu vois, 2 jours où tu ne travailles pas et tu te dis, bon, allez là, vraiment, j'y arrive pas. Surtout quand tu as un métier qui est basé sur la créativité et l'inspiration. En fait, c'est pas des choses. Tu vois, c'est pas comme quand tu remplis des dossiers. Enfin, tu vois, là, c'est vraiment un truc qui doit être généré par ton cerveau et qui doit naître de quelque part. Et en fait, si cette zone-là à l'intérieur de toi, elle est plus active et elle est en train de s'éteindre, et ben, en fait, tu vas jamais y arriver. Donc, en fait, c'est important de couper, de se régénérer de la façon qui est la bonne pour toi. Donc, moi, c'est le sport, les amis, voilà. Il y a d'autres gens, ça va être faire de la cuisine, ça va être partir en voyage, j'en sais rien. C'est important d'avoir des choses parallèles dans lesquelles on s'épanouit pour revenir après dans le travail de manière plus efficace et plus motivée finalement.
Merci, très bon conseil. Et je voulais aussi rebondir sur un autre point. Tu disais qu'à un moment donné, ça avait été compliqué pour toi de ne pas te brader, ouais, de pas brader tes prix. Donc, je voulais savoir comment la question à 10 000 euros. Comment est-ce que tu as fait toi pour arriver à définir tes prix et ensuite comment tu as passé le cap de dire non, non, ça suffit là, c'est vraiment trop peu cher, c'est pas rentable pour mon business, je n'accepte pas ce projet.
Ouais, c'est super dur. Ben, je pense qu'au début, j'avais vraiment cette peur. En fait, je pense que ce qui a changé dans mon état d'esprit, c'est qu'au début, j'étais vraiment dans un besoin du client. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans l'idée de ben, là, ce client-là, je veux absolument qu'il signe. Il faut absolument que je rentre de l'argent, même si ce n'est pas beaucoup. Donc, j'étais vraiment dans une demande, enfin, par rapport à mon client. Alors qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit le client qui soit en demande de ton travail. Et donc, à un moment donné, je ne sais pas, je ne saurais pas trop te dire comment c'est arrivé, mais à un moment donné, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je sois dans cette demande-là et qu'il fallait que ce soit l'inverse. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, bah, ce client-là, oui, j'ai envie de travailler avec lui. Après, là, il me demande un rabais de 300 euros. En fait, ce n'est pas possible parce que du coup, ça ne valorise pas mon temps. Et dans ce corps de métier, bah, en fait, ta principale valeur, c'est quand même ton temps. Donc, j'ai commencé à me dire, bah, j'aimerais bien travailler avec lui, mais après, si il ne me paye pas assez cher, bah, tant pis, enfin, il y aura quelqu'un d'autre. Et voilà. Après, on ne va pas se mentir, c'est possible de faire ça quand tu as peut-être 10 demandes. Quand on a deux, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que c'est aussi des problématiques sur lesquelles il est difficile de se positionner au tout début quand tu es en recherche de clients. Peut-être que ça vient plus tard. C'est des étapes. De toute façon, construire un business, c'est que des étapes. Mais c'est sûr que c'est une étape qui est incontournable. Donc, que ce soit 6 mois, 1 an ou 2 ans après que tu aies lancé ton business, ça peu importe, chacun son rythme. Et par contre, à un moment donné, il faut que ça soit présent, et il faut que tu te poses la question, il faut que tu inverses ce truc-là de pas être dans l'attente et que tu réalises qu'en fait, c'est le client qui doit avoir besoin de toi et pas l'inverse.
Merci, tout à fait, tout à fait d'accord. Et comment tu as fait au début pour définir, enfin, au début et ensuite pour définir tes prix?
J'ai étudié le marché. J'ai demandé aux autres comment ils se tarifaient. Pour être honnête, en France, il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui répondent. Mais si on frappe aux bonnes portes, tu trouves toujours quand même une ou deux personnes qui va te répondre et qui est prête à t'aider. Donc, il ne faut pas hésiter à demander en masse. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait au début. Après, les personnes qui te répondent, généralement, c'est les personnes qui sont très confiantes dans leur business. Donc, c'est des tarifs que tu mets pas forcément. Donc, qui dit personne très confiante veut dire personne aussi assez avancée et qui du coup n'a pas peur de la concurrence avec des guillemets et qui du coup partage plus facilement ce genre d'informations. Donc, c'est pas forcément des tarifs que toi tu vas appliquer au début quand tu te lances, mais en tout cas, ça peut te donner un goal, tu vois, un espèce d'idéal de te dire bon, dans 3 ans, il faudrait que j'en sois là. Et à partir de là, moi, j'essaie de tricoter quelque chose qui m'allait à moi, qui soit suffisamment rémunérateur sur mon temps, qui valorise assez mon travail, etc. Mais c'est une échelle vraiment personnelle. Et là encore, on en revient toujours à la même chose. En fait, il faut être entouré, il faut parler à d'autres gens, il faut comparer tes tarifs, il faut demander l'avis aux gens. Qu'est-ce que tu en penses si je fais ça pour tel tarif? Est-ce que c'est OK? Et il faut confronter, tu vois, il faut demander aux gens. Admettons que tu veuilles faire. Tu as un projet de dingue qui tombe et t'aimerais trop le faire, mais tu sens que c'est sous-payé. Et c'est dur d'être tiraillé, tu vois, et d'être seul face à soi-même pour ces trucs-là. Donc, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je demande à mes potes photographes, j'ai tel truc qui vient de tomber, on en pense quoi? Et du coup, on en discute, on se fait des vocaux, on se fait tu vois, des chiffrages de machin, tu vas y passer combien de temps? Qu'est-ce que tu gagnes en échange? Parce que parfois, la valeur de ce que tu perçois, enfin, c'est pas toujours de l'argent, tu vois, ça peut aussi être tu vois, des belles images qui vont te servir à toi plus tard, ça peut être de la visibilité, ça peut être plein de choses. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut être payé en visibilité, ce n'est pas mon point, mais ça peut faire partie, tu vois, du package quand tu acceptes de faire une ristourne, par exemple. Donc voilà, c'est toujours confronter, voir ce que toi tu peux y gagner et toujours rester dans quelque chose de positif. En tout cas, ce qui n'est jamais bon, c'est de partir sur un shooting en te disant, enfin là j'y vais à reculons parce que je suis mal payée, du coup j'ai pas envie. Parce que c'est vraiment un truc où moi je sais que ça m'est déjà arrivé hein, d'accepter des shootings où j'étais très mal payée, j'y allais à reculons et je savais que j'allais pas faire du bon travail, pour être très honnête, parce que t'as pas envie.
Ça crée
Enfin,
de
tu
la
vois, tant que
frustration.
c'est. Voilà, ça crée de la frustration et puis juste t'es pas en fait tu te sens pas valorisé. Donc quand tu te sens pas valorisé, tu travailles moins bien. C'est humain, je pense.
Oui, très bon conseil également. Je te remercie. J'étais en train de regarder aussi les photos derrière toi. Enfin, vous ne pouvez pas le voir là. Mais il y a des très jolies photos sur le mur de Mélanie. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton style. Parce que tu as un style quand même enfin, très beau d'ailleurs et très reconnaissable également. Comment tu as fait pour créer ton style?
Alors, vaste question. Je ne sais pas trop. C'est toujours compliqué de répondre à ça, je ne saurais pas trop expliquer. Je pense que c'est un
Suspense.
mélange. Ouais, non, c'est un mélange de choses qui, toi, te plaisent, qui t'inspirent. Tu vois, quand tu fais ta veille visuelle, parce qu'une partie du métier de photographe, c'est aussi d'engranger des images et de se construire une espèce de bibliothèque dans le cerveau d'images, de choses qui te plaisent, etc. Donc moi, je faisais pas mal de. Je le fais moins aujourd'hui, honnêtement, mais à une époque, j'ai fait beaucoup de. Pardon, de veille visuelle où je regardais beaucoup ce qui se faisait, ce qui existait dans des styles complètement différents, aussi bien dans le culinaire que dans le mariage. Tu vois, je passais peut-être 1 heure par jour à faire de la curation de contenu, on appelle ça. Et je pense qu'à force de voir des choses que je trouvais chouette et de me dire ah bah je pourrais peut-être essayer de reproduire ça ou faire ça ou ça me plaît beaucoup ou voilà et ben petit à petit mon travail s'est orienté tu vois mes photos d'aujourd'hui elles ressemblent pas du tout à mes photos d'il y a 1 an tout comme mes photos d'il y a 1 an ne ressemblent pas du tout à mes photos d'il y a 2 ans et sans doute que ça va encore évoluer mais après moi j'aime pas trop parler de style parce que je trouve que c'est assez réducteur comme mot dans le sens où ça sous-entend qu'il y a des catégories dans lesquelles on est forcément rangé alors que pas du tout je trouve que le travail en photo c'est quand même en fait c'est tellement subjectif personnel et sensible que que, je sais pas, moi j'ai du mal à parler de style. Tu vois, les gens en
Alors
mariage, ils te
peut-être qu'on peut
diraient
parler de
que...
signature, mais je trouve qu'il y a quand même, enfin moi en tout cas, je ressens, enfin je vois tes photos, je ressens que c'est toi, tu vois, même sans
Ouais.
forcément voir, enfin même avant d'avoir vu ton nom. Et donc voilà, peut-être qu'on peut parler de pâte ou de, voilà,
Ouais.
de signature, voilà, de signature si tu préfères. Non, je comprends. C'est vrai que moi non plus, j'aime pas trop être catalogue. Enfin, je recommande aussi, bah, par exemple, aux élèves de My Suite Academy, ne pas non plus trop s'enfermer dans un style très défini. Enfin, tu vois, Claire, Dark and Moody, etc. Parce que je trouve ça dommage, justement. Donc oui, je partage ton point. C'est dommage de s'enfermer sur un style. On peut parler alors, dans ce cas-là, de petites, de pâtes artistiques. Donc voilà. Donc pour, du coup... Résumé, tu disais que toi, ce que tu faisais, c'était pas mal de veille d'images, c'est ça, de regarder un petit peu, de te créer des bibliothèques. Tu utilisais quel genre de... Est-ce que tu cherchais, par exemple, sur Pinterest ou quel genre de plateforme est-ce que tu utilisais?
Ouais, beaucoup sur Pinterest pour le culinaire et beaucoup sur Instagram pour le mariage. Et pour le mariage, ce que je fais, c'est que je regarde énormément ce qui se fait à l'étranger. Notamment en Australie, j'aime beaucoup, aux USA évidemment. Tu vois, cette dimension un peu, comment dire, un peu sauvage, un peu plus libre, tu vois, où ils prennent plus de liberté sur la composition des photos notamment, et je trouve ça très inspirant. Et Pinterest, ouais, pour le culinaire, c'est vraiment une mine. Bon, Instagram aussi, hein, mais Pinterest, y a beaucoup de choses aussi à voir, et c'est très facile, tu sais, de se faire des boards sur Pinterest que tu vas dans lesquels tu vas enregistrer tes photos, et puis ensuite tu y retournes et tout, c'est chouette. Donc Instagram et Pinterest, c'est vraiment deux très bons outils.
Eh ben merci, ça tombe bien que tu parles de photo mariage, justement, ça va me permettre de faire ma petite transition. J'aimerais parler un petit peu justement de photo mariage avec toi. Comment est-ce que tu as commencé finalement tes premiers projets mariage?
Alors, j'ai commencé alors que j'étais encore en CDI, mon premier mariage, j'étais encore employée à la guinguette d'Angèle. Donc, j'ai eu toute une période où j'étais en CDI et je faisais des mariages le week-end. Donc, mon premier mariage, c'était le mariage d'une amie d'amis. Je ne conseille à personne de faire ça. C'est vraiment pas un bon truc à faire parce que ça met beaucoup de pression. Et en plus de ça, ben, comme c'était mon premier mariage et que c'était un peu dans mon cercle, et ben, il y a un truc où, tu sais, je sais pas, il y a un truc qui est pas très, qui te rend pas très légitime, où moi je sais que j'ai été payée au black, je n'ai pas été payée très cher, et en fait j'avais l'impression que j'avais de la chance, tu vois, d'avoir cette opportunité-là, alors que pas du tout. Enfin, en fait, c'est vraiment un truc, moi je trouve, c'est mon avis, mais je trouve que c'est un mauvais démarrage. Je pense que pour se lancer dans la photo de mariage, le mieux, c'est quand même de contacter des photographes de mariage qu'on aime bien et de leur demander d'être second, donc de les accompagner sur des mariages et de voir comment ça se passe, de regarder comment ils travaillent, d'être second shooter, donc de leur faire des photos en parallèle, etc. On fait ça une fois, deux fois, trois fois, peut-être une saison si vraiment on n'a pas confiance en soi, cinq, six mariages, et puis après c'est bon, on est bon pour se lancer, tu vois. Mais moi, je déconseille à quiconque de faire son premier mariage en solo, qui plus est dans son cercle personnel. Moi, j'ai pas. Enfin, là, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'était quand même une erreur de faire ça.
Alors c'est vrai que de manière générale, je trouve que c'est pas évident de travailler avec ou pour des amis parce que justement il y a plein de biais qui se passent. Il y a aussi parfois tu te sens pas à l'aise ou t'es pas aligné avec un tarif ou t'es pas aligné avec certaines choses, mais t'oses pas forcément le dire vu que c'est tes amis, etc. Donc ouais, je suis d'accord, c'est pas toujours facile. Et toi, tu organises aussi les retraites Tangerine, enfin Tangerine, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est né ce projet, comment ça se passe? Voilà, j'aimerais avoir plus d'infos à ce sujet parce que je pense que ça peut être super intéressant pour les personnes qui nous écoutent.
Ouais, c'est un projet qui est né aussi pendant le Covid. Pendant le Covid, donc du coup, on avait peu ou pas de mariages, puisque tout est... Enfin, moi, j'ai quand même 90% de mes mariages qui ont été soit annulés, soit décalés. Du coup, j'avais beaucoup de temps. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'on appelle des shootings d'inspiration. Donc, c'est des shootings que tu crées toi-même pour te faire des images. Avec des shootings d'inspiration mariage, c'est tu trouves un couple, tu les habilles comme s'ils allaient se marier, et puis après, soit tu te contentes, tu vois, de faire une séance couple avec un bouquet, et puis tu te fais des images comme ça, soit vraiment tu trouves un lieu, un traiteur de la papeterie, enfin, tu vois, ça peut avoir les dimensions que tu veux. Et les premiers que j'ai organisés, je les fais avec une de mes amies slash collègues qui s'appelle Morgane. Et on s'est lancé dans un premier shooting. On en a même fait deux ensemble d'inspiration parce que moi, je me disais, bon, en vrai, on a quand même du temps, on n'a que ça à faire. Donc, du coup, allons-y. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que vraiment, l'organisation, même les choix, tu vois, de stylisme, de design, choisir les robes, choisir les fleurs, choisir le lieu, démarcher les gens, monter une équipe. Enfin, vraiment, ça m'a passionnée comme projet. J'ai adoré. Et là, c'était encore à petite échelle, tu vois. C'était pour Morgane et moi, donc c'était pas un truc énorme, mais j'avais déjà adoré. Et du coup, j'en ai parlé avec mes amis photographes, donc toujours cette idée d'être entourée et d'avoir un cercle. Je leur en ai parlé en leur disant, vraiment, j'ai adoré faire ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un business? Genre, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un truc, une activité à part entière, quoi? Est-ce que vous seriez client, cliente pour ça? Et ils m'ont tous répondu, franchement, carrément, parce que moi, typiquement, des shootings inspi, j'adore ça, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas d'idées, j'ai pas de contact, donc je saurais pas comment créer ça. Donc franchement, si toi t'adores ça, chaud. Et donc en rigolant, ils m'ont dit, fais-en un pour nous. Et je leur ai dit, franchement, me chauffez pas parce que je vais le faire. Et du coup, j'en ai monté un où mes potes sont venus tester un peu le concept avec moi. Et l'idée, c'était que je montais le shooting et eux, en échange, ils me faisaient des retours sur ce qui était améliorable ou pas, ce qui allait pas, les choses qu'il faudrait changer si vraiment je me lançais dans un vrai projet professionnel là-dessus, etc. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et début 2021, j'ai lancé la toute première édition officielle. Et c'était incroyable parce qu'en gros, j'ai ouvert les places, enfin, j'ai ouvert les ventes. En 48 heures, c'était complet. Et il y avait à l'époque, il y avait 12 places. Donc, je sais pas si tu vois, je me suis dit, mais c'est ouf.
Bra ouais,
Enfin,
incroyable.
ouais, je me suis dit, c'est dingue, il y a une vraie demande. Enfin, moi, j'étais quand même très étonnée. Mais du coup, j'étais trop contente. Donc, on a fait la première édition. C'était hyper chouette. La grosse valeur ajoutée de ce projet, c'est que les gens se rencontrent. Donc, moi, je fais un groupe WhatsApp, tu sais, pour chaque édition. Et donc, du coup, les gens à l'intérieur se rencontrent, discutent, etc. Et il y a beaucoup de gens. Là, je fais bientôt ma 10e édition Tangerine.
Wow.
Et sur les précédentes éditions, il y a beaucoup de gens qui sont restés en contact et qui aujourd'hui sont amis, font des shootings inspiration ensemble. Enfin, tu vois, en fait, ça fait des bébés, okay, entre guillemets. Et je trouve ça vraiment cool parce que du coup, après, tu sais, ils m'envoient des petites photos en me disant on est en train de faire un shooting ou tu sais, des
Ouais.
petits selfies et on s'est retrouvés, nanana, merci à Tangerine et tout. Et je trouve ça vraiment. En fait, c'est précieux, c'est aussi pour ça que tu fais ça, c'est pour la communauté et pour que les gens se rencontrent et pour créer du lien. Et voilà, au-delà de se faire des belles images, hein, qui est aussi quand même le sujet. Mais voilà, et donc entre la première et la 10e édition, forcément c'est évolutif parce que forcément c'est un projet qui reste un projet un peu crafté de zéro. Donc, à chaque fin de truc, je demande des retours, j'essaye d'améliorer les points qui peuvent être améliorés, j'essaye d'être au plus proche des ressentis des gens pour savoir comment les gens le vivent, etc. Après, il faut faire la part des choses entre les retours que tu as qui sont vraiment dithyrambiques versus ceux qui sont vraiment très négatifs. Il faut trouver un juste milieu et accepter que tu peux pas non plus contenter tout le monde parce qu'il y a aussi une part d'humain, donc il y a aussi une part de subjectivité, donc il y a aussi une part de en fait ça va pas forcément à tous les caractères et c'est comme ça. Mais en tout cas, j'essaye de faire mon chemin là-dedans pour créer une expérience, tu vois, au plus proche des attentes des gens. Et du coup, c'est assez évolutif quand même. Enfin, là, l'édition numéro 10 n'aura rien à voir avec l'édition numéro 1. Mais c'est chouette. Du coup, ça reste un projet qui est vivant, qui évolue. Et c'est très cool.
Magnifique, félicitations. Franchement, je pensais pas qu'il y avait eu autant d'éditions et tout. En tout cas, ça a l'air vraiment génial. Et tu parlais justement de parfois avis un petit peu moins positifs. Comment justement est-ce que toi tu fais de manière générale pour gérer le feedback entre guillemets négatif?
Des clients, tu veux dire?
Oui.
Alors ça dépend. Si c'est un feedback négatif d'un client sur commande, donc un shooting qu'on m'a commandé. Aujourd'hui, je pense que j'ai assez de recul et d'humilité pour me dire j'entends, du coup, trouver une solution. Ça n'a pas toujours été le cas. Je pense qu'au début, j'étais quand même assez piquée dans mon ego. Tu vois, quand un client n'aimait pas, moi j'étais toujours, enfin, je pense mes 2 premières années, j'étais beaucoup comme ça. Quand un client n'aimait pas ou avait des choses à redire, j'étais toujours un peu dans cette énergie de bah, c'est le client qui a tort, enfin, genre vraiment, il est relou, et voilà.
Donc tu étais plutôt en mode confrontation, ou bien?
Ouais, un peu.
Ok.
Un peu. Et aujourd'hui, je suis plus trop comme ça. Là, je me suis pas mal désamorcée là-dessus et j'essaie beaucoup plus de comprendre. Après, il s'avère que, bon, parfois, tu as quand même des clients qui sont chiants, c'est comme ça. Mais après, j'oublie pas que ça reste le client, c'est lui qui paye, faut il faut qu'il soit content à la fin. Donc j'essaie de m'ajuster. Le vrai problème que je peux avoir par rapport à ça, c'est quand le client a vraiment des attentes qui finalement ne correspondent pas du tout à mon travail ou ne sont pas dans ma façon de travailler. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis en place maintenant, avant mes prestations, plusieurs échanges pour vraiment bien essayer de déterminer ce que la personne attend. Parce que si jamais je me rends compte en cours de route, alors que j'ai commencé le shooting, qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ma démarche, bah, c'est trop tard. Alors que si je m'en rends compte avant, bah, il est encore temps de lui dire, bah, par contre, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour cette prestation et tu vois, de le rediriger vers quelqu'un d'autre. Et du coup, tu travailles quand même beaucoup plus sereinement de cette manière-là. Donc ça c'est pour les clients sur commande et après mes clients donc en projet personnel donc ça va être les shootings Tangerine, ça va être les workshops Cajou et Mimosa qu'on fait avec Claudia pour le culinaire etc. J'avoue que là c'est un peu plus dur, les retours négatifs c'est compliqué parce qu'en fait les projets personnels c'est bah, surtout Tangerine où tu vois je suis toute seule à la tête du projet, c'est quand même un truc qui est 100% toi finalement. Et j'ai quand même un peu de mal encore aujourd'hui à avoir suffisamment de recul. C'est vrai que quand je me prends des retours très négatifs, ça fait mal. Après, bah, encore une fois, on en revient toujours à ça. J'ai un cercle avec qui je partage et où j'ai pas peur de dire j'ai reçu ça. Est-ce que vous pensez que là, j'ai vraiment des raisons de me remettre en question et auquel cas je le ferai, tu vois. Je sais que quand ça me touche trop, je demande un avis extérieur parce que je sais que moi, je suis pas forcément très clairvoyante, justement parce que ça me touche trop. Donc voilà, après, ça dépend aussi des retours, tu vois. Tu as des gens qui vont te formuler que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'expérience qu'ils attendaient à cause de tel point, tel point et tel point, mais c'est amené de manière, comment dire, modéré, nuancé, donc ça va. Et puis après, tu as des gens qui sont vraiment quand même beaucoup plus cash et
Virulent,
durs.
ah ouais, ok.
Et là, c'est ouais, là, c'est un peu dur. Parce que ça reste, tu vois, une grosse énergie que tu as mise dans un projet pour essayer de contenter les gens. Donc ouais, parfois, c'est compliqué. Après, ça n'arrive pas tant. Honnêtement, les gens sont quand même globalement contents. Mais c'est vrai que quand ça arrive, j'ai encore un peu de mal ouais, sur mes projets personnels. Ça, c'est un truc qu'il faut que je travaille, à prendre de la distance et à me dire, bon, bah, c'est OK, en fait, de ne pas réussir à contenter tout le monde et d'accepter qu'il y a des personnalités qui ne sont pas forcément toujours OK, tu vois, sur ces points-là, quoi.
Merci. Justement, tu nous parlais des workshops qu'a joué Mimosa. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe et aussi quelle est l'organisation en amont pour de tels événements?
Ouais, bah, Cajou et Mimosa, du coup, c'est les workshops de photographie culinaire qu'on a créés avec mon associée Claudia, qui est également photographe styliste culinaire. Elle fait aussi du mariage et voilà. Enfin, elle est aussi multipotentielle. Et on a créé ça bah, pendant le Covid aussi. On a lancé la première édition en sortie de Covid. Et là, je pense qu'on doit être, je sais plus si on a l'édition 22 ou 23, mais on en fait quand même pas mal. Et donc, comment ça se passe? Et ben, en amont d'un workshop, on va décider de 4 scénographies culinaires. On va faire les courses en adéquation avec ça, faire la cuisine, réfléchir les scénos, les accessoires, etc. Et après, donc quand les gens arrivent, donc il y a 8 places sur un workshop, les gens arrivent, on a une formation théorique le matin de 2 heures. Ensuite, on shoote les scénographies, les 2 premières scénographies avec eux, ou elles, souvent des femmes quand même. Et on les accompagne vraiment dans la prise de vue. Donc, on revoit, tu vois, tous les principes comment dire, de composition, d'ajustement, d'angle, enfin, tout quoi, enfin, toute la théorie culinaire. On les accompagne dans la prise de vue. On est vraiment avec eux, tu vois, pour qu'ils ressortent les photos les meilleures possibles. Ensuite, on déjeune. Ensuite, on a re-2 scénographies après déjeuner. Et ensuite, on a un troisième module de formation théorique sur Lightroom, du coup, pour aborder tout ce qui va être la post-production. Et voilà. Et après, la journée est finie. Ça passe quand même assez vite. Et là, pareil, pour chaque édition, on crée un groupe. où les gens, où on demande après aux gens de nous envoyer, tu vois, leurs photos pour qu'on puisse leur faire nos retours sur la post-prod, etc. Donc pareil, ça crée des liens qui sont assez cool. Et voilà, toujours un peu dans cette énergie de, bah ouais, de transmettre, de partager, de rencontrer des gens. Voilà.
Trop bien, merci. Bah, bravo aussi pour cette belle organisation et toutes ces belles éditions. Et j'aurais aimé revenir un petit peu sur la photo mariage du coup. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui aujourd'hui, en écoutant cet épisode, ont été inspirées par ce que tu dis et se disent OK, moi j'aimerais bien aussi pouvoir me lancer ou me former à la photo mariage.
Bah, un peu le même conseil que tout à l'heure, à savoir contacter des photographes de mariage qu'ils aiment bien pour être second et les seconder sur un mariage. Quand on seconde quelqu'un, enfin, même si c'est très formateur et très intéressant, il faut quand même être conscient que ce n'est pas du tout le même niveau de stress que quand on est photographe principal, évidemment. Néanmoins, ça donne quand même une très bonne approche de la situation, de ce qui se passe, de l'énergie que ça demande, etc. Donc ça, c'est mon premier conseil, être second. Et ensuite, mon deuxième conseil, ça serait d'être sûr qu'on aime vraiment les gens. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un truc. Enfin, on ne fait pas du mariage, tu sais, pour se dire ça a l'air cool, je vais passer une bonne journée. En vrai, le mariage, c'est difficile. Enfin, c'est difficile dans le sens où, en fait, ça draine, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et le mariage, c'est du reportage au service de ton couple. Donc, c'est pas de la photo pour toi. C'est vraiment de la photo. Évidemment que tu peux te faire deux, trois kiffs dans la journée avec des photos qui te plaisent, etc. Mais il faut quand même pas oublier que tu es là pour les gens, que tu es prestataire et que tu es là pour leur créer des souvenirs. Donc, c'est pas un shooting où tu vas te faire kiffer et où tu vas penser qu'à toi. C'est vraiment un truc où tu vas pour eux, pour leurs souvenirs, pour leur entourage. Et ça, c'est important à garder en tête parce que je trouve qu'il y a quand même des photographes qui perçoivent le mariage comme une occasion de se faire des images pour eux. Et moi, je suis quand même pas très en accord avec ça. Je trouve que ce qu'il faut avant tout, c'est aimer ton couple. Donc les gens, tu les rencontres, tu vois si le feeling passe ou pas. S'il passe, bah let's go. Et après, si le feeling passe, c'est que tu les aimes beaucoup. Et bah peu importe ce qui se passe sur leur mariage, tu vois, si c'est une déco que t'aimes pas, si c'est j'en sais rien, un lieu que t'aimes pas, si tu t'entends pas avec l'oncle ou machin, bah en fait il faut passer outre, tu vois, c'est pas grave, t'es là pour eux. Donc il faut pas que ça t'impacte, il faut avoir cette résistance-là au fait que t'es vraiment là pour eux et pas pour toi.
Et comment t'as ouais. En effet, et comment t'as fait du coup, les peut-être que de temps en temps tu t'es retrouvé dans des lieux que tu trouvais pas forcément inspirants ou pas forcément esthétiques. Comment est-ce que t'as fait malgré tout pour essayer d'en tirer des beaux clichés?
Bah, il y a toujours, de toute façon, il y a toujours, même quand t'es pas très inspiré par un lieu ou par une déco, il y a quand même toujours quelque chose à en tirer. Enfin, tu vois, quand t'es photographe, c'est quand même ton métier d'avoir cet œil qui va rendre les choses belles. Donc, je dirais que la différence entre un très très beau mariage dans un très très beau lieu et un mariage moins beau dans un moins beau lieu, c'est que du coup, c'est moins facile. Bah, ton travail est moins facile, c'est moins facile de tirer des photos qui sont jolies, néanmoins, c'est possible. Donc, il y a toujours moyen de s'en arranger. Et puis, si la déco n'est pas dingue, et bah, c'est pas grave. Tu te rattrapes sur les gens, tu te rattrapes sur les moments, tu te rattrapes sur les émotions. Il y a toujours, enfin, une journée de mariage, c'est du reportage. En moyenne, tu fais 10 heures de reportage. C'est quand même difficile de ne pas sortir des bonnes photos quand tu as autant de clichés à faire, tu vois.
Merci. Ensuite, je voulais savoir quel conseil tu donnerais aux personnes à l'heure actuelle qui aimeraient lancer un business plutôt enfin, en photo, que ce soit photo culinaire ou photo mariage.
Alors, je leur dirais de ne pas faire comme moi, c'est-à-dire de ne pas miser toute leur stratégie marketing sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je me fais une réflexion là depuis un an et demi, à savoir que si demain Instagram crash, moi, j'ai plus de business. Parce que c'est-à-dire que vraiment, moi, la quasi-totalité de mes clients vient d'Instagram. Donc, voilà, plutôt éviter de faire ça. Évidemment que c'est important les réseaux sociaux et pour faire sa com et tout, c'est très important. Et après, chacun ses façons de faire. Tu as des gens qui vont miser sur le référencement, tu as des gens qui vont miser sur le bouche à oreille, tu as des gens comme moi qui vont miser sur Instagram. Voilà, je pense que la bonne approche, c'est de pas tout miser sur un seul canal. Alors que moi, clairement, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai tout misé sur Instagram, mais aujourd'hui, j'ai quand même du mal à me sortir de ça. Donc, je dirais que pour se lancer, il faut vraiment essayer de placer ses billes un peu partout pour pas s'appuyer que sur un canal d'acquisition de clientèle et de vraiment être multi-support.
Merci, je te remercie. Est-ce qu'il y a encore un élément, quelque chose que tu aimerais partager, pardon, aux personnes qui nous écoutent avant la fin de l'épisode?
Par rapport à la photo ou par rapport au business?
Par rapport à ce que tu veux. Photo, business, citation, inspiration, ce que tu as envie de communiquer aux personnes et de, voilà, aux personnes qui nous écoutent, de leur partager.
Bah, je pense que par rapport à ma situation actuelle, j'aurais envie de dire qu'il faut quand même pas oublier que c'est génial de monter un business. De travailler pour soi, de choisir ses clients. Il y a énormément de choses qui sont positives. Il y a aussi, mais il ne faut pas oublier que ça reste un truc qui demande de l'énergie, qui est lourd et qui est stressant. Néanmoins, quand on fait la balance de ces deux choses-là, il faut garder en tête que monter un business, avant tout, il faut qu'on soit aligné. C'est-à-dire que, en fait, si on ne va pas bien, le business n'ira pas bien. Et si on va bien, le business ira bien. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, ce n'est pas comme, tu vois, quand tu es, j'en sais rien, vendeur dans un resto ou que tu classes des dossiers ou j'en sais rien. En fait, le niveau d'énergie que tu vas mettre dans ton travail ne dépend que de toi et ce n'est pas des tâches, tu vois, qui sont basiques et qui peuvent s'empiler les unes sur les autres. C'est vraiment un truc qui naît de ton énergie personnelle, de ton inspiration, de ta motivation. Donc, c'est important d'aller bien avant tout. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même si on lance un business et qu'on est très soucieux de réussir, qu'on ne veut pas lâcher, qu'on veut tout donner, etc., c'est ce que j'entends, il faut quand même pas oublier qu'avant tout, il faut aller bien, il faut prendre soin de soi, parfois il faut couper pour faire des choses pour soi-même, il faut pas vivre que de son business. Enfin, vraiment, ça, c'est pas possible, je sais, moi je l'ai fait, et je sais qu'on s'y perd, ça coûte, et voilà, il faut faire la part des choses, c'est important, le business évidemment, mais il faut aussi, il faut d'abord prendre soin de soi.
Ouais, je valide. Je te remercie, je valide. Je pense que, enfin, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que quand tu vas vraiment mal, c'est, enfin, tu peux pas produire de bonnes choses. Enfin, moi, je trouve que c'est très très compliqué quand tu es à plat, quand t'as pas d'énergie ou comme quand tu disais, voilà, tu as des challenges personnels. C'est compliqué d'insuffler une énergie positive dans le business et pour moi, c'est presque en fait faire des efforts. En vain dans le vide. Donc, c'est vrai que dans ce genre de cas, je préconise aussi plutôt de d'abord se focaliser sur soi pour aller mieux dans sa vie perso et ensuite après pouvoir revenir recharger dans le business et insuffler une énergie nouvelle. Donc,
Tout à fait.
tout à fait, tout à fait d'accord. Bah,
Je
écoute, un immense merci, Mélodie. J'avais encore plein de questions. Enfin, je pense qu'on aurait encore pu parler très longtemps parce que c'est vrai que c'est assez dense vu qu'il y a la partie photographie culinaire, la partie photo mariage, la partie business aussi. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Peut-être qu'on se retrouvera dans un autre épisode pour aborder d'autres thématiques. Et puis, dans tous les cas, du coup, on va se retrouver là dans quelques instants. Dans la vidéo bonus justement qu'on va enregistrer avec Mélodie, dans laquelle Mélodie va vous expliquer comment gérer justement tous ces business, enfin toutes ces activités différentes en parallèle. Donc
Ouais.
rendez-vous très vite dans cette vidéo sur mon site et un grand merci encore Mélodie et à très bientôt.
Merci à toi de m'avoir invité.
Avec grand plaisir, merci, ciao ciao.
Ciao.
J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Massu Discoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photos. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.